Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est la curiosité avec Sidonie et Thomas, vous allez bien?
On parle de nous à la troisième personne ce soir. Oui, il va bien.
Bonsoir,
Thomas Hugues. Comment va Sidonie Bonnec?
Très très bien, ravi de vous retrouver les curieux, c'est votre émission.
Alors, vous connaissez le numéro si vous avez l'habitude de nous écouter sur RTL. Il y a le 3210 pour réagir, il y a aussi RTL.fr ou alors le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL. Et si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue.
Et d'ailleurs, la curiosité, on va refaire le programme. C'est du lundi au jeudi sur RTL, 2 heures de récits, d'aventures, de révélations et de voyages comme celui qu'a vécu notre invité jeudi dernier. Il a embarqué sur un brise-glace russe pendant 3 mois, direction l'Antarctique. Tiens, au fait, comment ça se dit, la curiosité est un vilain défaut en russe?
Ils ont pas cette expression, mais la curiosité, c'est любопытность. Je sais pas, on pourrait inventer une phrase avec ça.
Inventer.
Любопытность – это плохое качество. Любопытность – это плохое качество. Je sais pas.
Voilà. On a même
c'est joli, mais on va continuer à le dire en français.
Oui, et qui invente des dictons, parce qu'il n'existe pas ce dicton en russe. D'autres pépites à venir avec notre programme du soir tout à l'heure, à 2 jours de la sortie du film consacré à Jackie Kennedy, la face cachée de son mari JFK et de ceux qui ont voulu sa mort. Le lien entre les deux porte le nom d'une femme, Marie Meyer. Elle était la maîtresse du président. Elle aussi a été assassinée.
Et puis nous répondrons aussi à cette question. Marco Polo était-il un imposteur? Le grand voyageur vénitien a sans doute inventé une partie du voyage en Chine qui l'a fait entrer dans la postérité. On va démêler évidemment le vrai du faux.
Et tout de suite on découvre des histoires de survivants sur RTL.
RTL.
Passé 3500, 4000, 4500 mètres d'altitude, il n'y a plus rien. Rien qui puisse vous permettre de vous alimenter, de vous nourrir.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai annoncé à Nando qu'il ne restait plus rien dans les compartiments de rangement où nous avions entreposé les chocolats et la boîte de sardines. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Carlitos, j'ai décidé de manger le pilote. »
Vivre ou ne pas vivre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Vous connaissez cette phrase prononcée par Henri Guillaumet, le mythique pilote de l'aéropostale qui s'est écrasé dans les Andes et qui a survécu après 5 jours de marche dans la montagne. Aucune bête ne l'aurait fait. Mais ces hommes et ces femmes ont réussi à survivre. Ce sont ces destins que l'on va vous raconter avec notre invité. Éric Millet, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Soyez le bienvenu, vous êtes écrivain, photographe, avec un très long passé d'aventurier. Votre terrain de jeu à vous, c'était le désert?
Ouais, je suis un enfant des années Ushuaïa, au début des années 80. J'ai traversé effectivement un certain nombre de déserts en speedsail. Le speedsail, c'est une planche à voile à roulettes. Voilà, et j'avais envie de rassembler un peu des témoignages de survie forte et complètement inimaginable.
C'est quoi le point commun de ces témoignages de survie?
Alors, c'est la façon de raconter. Et c'est aussi la capacité de se dépasser. Mais quelque chose qui dépasse l'entendement, justement. C'est-à-dire, c'est complètement inimaginable. À aucun moment, quand vous lisez les histoires, vous pouvez vous imaginer être à leur place. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dépasse la raison pure. La raison de se dire, on va faire quelque chose. C'est Spinoza qui disait, on sait pas ce que peut un corps. Et là, justement, à travers ces différents récits, d'un seul coup, on sait ce que peut un corps.
Et on découvre en lisant votre livre Survivre, témoignage publié aux éditions Omnibus que effectivement il faut être confronté à l'incroyable pour savoir quelles sont ses propres limites. On a entendu tout à l'heure dans la mise en onde d'André Facetta une bribe d'histoire et le témoignage d'un homme qui s'appelle Nando Parado. On va raconter l'histoire de ce vol. Ça commence un vendredi 13. Bon, moi j'y crois pas à ces hasards-là, mais on va quand même le noter. Vendredi 13 octobre 1972, des sportifs, ils sont rugbymen, je crois, uruguayens, ils montent dans un avion direction Santiago du Chili. Comment se passe le vol?
Alors en fait, la première partie du vol se pose bien, mais ils sont obligés de ravitailler à Mendoza, en Argentine, avant d'attaquer la traversée de la cordillère des Andes proprement dite. Mais il y a un petit problème, c'est que c'est un avion qui a été loué à l'armée uruguayenne. Et malgré les conditions météo, ils ne peuvent pas reporter la traversée pour pouvoir aller se rendre à Santiago. Donc ils vont être obligés de partir. Alors c'est un vendredi 13, ils vont être obligés de partir malgré des conditions météo qui sont quand même assez défavorables.
premier accro à la raison, d'une certaine façon.
Il n'aurait pas fallu décoller. On peut le voir comme ça, effectivement. Il n'aurait pas fallu décoller, mais par la force des choses, ils vont le faire. Mmh. Ensuite, ils ne peuvent pas, compte tenu de l'altitude de la cordillère à cette latitude-là, ils ne peuvent pas traverser en direct pour aller de Mendoza jusqu'à Santiago. Ils vont être obligés de descendre un peu vers le sud. Et d'ailleurs, Guillaume, que vous évoquiez tout à l'heure en entrée, c'est exactement la même chose pour lui. Il va être obligé de se détourner légèrement vers le sud pour pouvoir franchir un col, quand même un col à plus de 5200 mètres d'altitude, donc c'est pas rien. Et là, ils sont pris dans une bourrasque, l'avion devient difficilement contrôlable. L'arrière de l'avion va toucher une arête et va se disloquer. Et l'ensemble du fuselage va continuer sa course au milieu d'un cirque. Ils vont se retrouver au milieu d'un cirque piégé à 3600 mètres d'altitude.
Ça veut dire que l'avion est fendu en deux et qu'il y a une partie des passagers qui vont disparaître ?
Alors, il y a effectivement une partie des passagers qui est éjectée de l'avion au moment du choc. Mais pire encore, au moment où l'avion est bloqué par la neige, c'est-à-dire on imagine facilement un avion qui glisse sur la neige, va être arrêté d'un seul coup. Et là, l'ensemble des rangées de sièges vient percuter le cockpit. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est écrabouillé à quelque chose près.
Il y a combien de survivants ?
Alors, dans un premier temps, il y a 27 survivants sur 45 passagers quand même. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est le silence le plus total. Ils vont pratiquement tous rester dans le coma à peu près 3 jours. Et c'est au bout de 3 jours que la vie va reprendre petit à petit.
Les uns après les autres, ils sortent de...
Alors, les uns après les autres vont sortir d'un coma et vont un peu faire l'état des lieux de ce qui se passe autour d'eux. Et là, ils se rendent compte en fait qu'ils sont à 3600 mètres d'altitude, ils sont dans la neige, ils sont gelés, ils n'ont rien mangé, et déjà, au bout de 3 jours, il va falloir boire.
Ça, c'est la première préoccupation, c'est le premier instinct de survie, avant même de manger. Comment vont-ils boire ?
Alors, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, y a de la neige, il suffit de fondre de la neige.
Oui.
Mais faut-il pouvoir le faire ? Ils n'avaient pas de feu, ils ne pouvaient pas faire du feu. Donc la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de mettre de la neige directement dans la bouche. Seulement à cette altitude-là, au bout de 2 jours, ils ne peuvent pas supporter, ça leur fait des gerçures pas possibles, ça leur détruit complètement l'intérieur de la bouche, l'estomac, les lèvres, etc.
Donc ils trouvent un système, ils font appel à leur ingéniosité pour faire fondre cette neige.
Ils vont chercher, ils peuvent pas, il y a pas suffisamment de soleil encore. On est quand même le 13 octobre. Le 13 octobre, c'est l'équivalent dans l'hémisphère sud du printemps. Mmh. Donc ils sont dans un cirque de montagne avec des parois rocheuses qui s'élèvent à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc ils sont pratiquement dans l'ombre en permanence. Donc il y a pas suffisamment de soleil pour faire fondre la neige, sauf à un endroit. Et on va voir que l'ingéniosité va se mettre en route. Ils vont commencer à essayer de disloquer les sièges pour trouver des feuilles d'aluminium et de faire des espèces de petits réceptacles pour faire fondre la neige goutte à goutte.
Et c'est comme ça qu'ils vont boire pendant plusieurs semaines. On imagine qu'ils ne sont pas non plus équipés pour affronter le froid. Ils n'ont pas de grosses doudounes. Comment ils se protègent du froid ? Comment ils font pour ne pas crever de froid ?
Alors, c'est des jeunes de Montevideo. Ils sont partis en tongs et en short. Hein. L'avion climatisé, ils arrivent à Santiago. Enfin, ils ont peut-être prévu une doudoune, mais ouais. En gros, ils n'ont pas grand-chose sur eux. Donc, effectivement, le premier problème à résoudre, c'est se protéger du froid. Donc ils vont rassembler, ils vont commencer à déshabiller les morts, hein, et les aligner les uns à côté des autres, à côté de la carlingue, et récupérer les vêtements pour eux-mêmes se vêtir avec.
Ils dorment tous ensemble, collés les uns aux autres ?
Oui, et ça on va voir que c'est une constante chez les survivants des régions polaires et des régions du froid.
Alors on a parlé de la soif, on a parlé du froid, on va maintenant évoquer la question de la faim qui évidemment est centrale puisque cette affaire, cette histoire de survie, elle nous amène au cannibalisme. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
De quoi l'être humain est-il capable pour échapper à la mort ? Ce sont des histoires de survie, des histoires extrêmes que l'on vous raconte dans la curiosité avec notre invité Éric Millet, aventurier, écrivain, photographe, on essaye aussi de se raccrocher. On était en train de raconter l'histoire de ce vol vers Santiago du Chili, de ces hommes et de ces femmes qui se retrouvent coincés à 3500 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. Mais vous-même, vous êtes un aventurier. Vous nous disiez votre passion du désert. Ça vous est arrivé de frôler la mort, de vous sentir en situation de survie ?
Frôler la mort, non. Aller à une extrême de la fatigue, oui, avec un détachement du corps, c'est-à-dire une fatigue extrême où, à un moment donné, effectivement, on doit être dans les 21 grammes, vous savez, la part des anges, où on se regarde, on se dit « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» etc. Et on le retrouve d'ailleurs dans nombreux des récits que j'ai collectés dans ce livre. À un moment donné, il y a une espèce de dédoublement de la personne, c'est-à-dire il y a effectivement le corps qui continue à fonctionner, qui est mécanique, etc., et qui va lui conserver ses instincts de survie qui lui sont propres. Il y a d'une part la raison et il y a une troisième
comme si vous observiez,
exactement,
vous étiez plus dans votre corps.
Oui.
Spectateur de votre
ça, sur des états de fatigue, ça arrive, et beaucoup de gens qui sont allés dans des fatigues extrêmes pourraient...
Comme Mike Horn qu'on avait reçu, l'aventurier sud-africain.
Qui est un amoureux du danger personnifié.
Et qui parle vraiment de dédoublement.
Et absolument. Donc là, ça effectivement, dans des états de fatigue extrême, on a cet état de fait qui permet de... Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans différents récits du livre.
Cette survie, comment elle se nourrit, comment elle s'incarne, c'est cette histoire que vous nous racontez. On est en octobre 1972, il y a ces 27 survivants d'un crash au cœur de la Cordillère des Andes. Ils sont dans un cirque, ils ont froid, ils ont faim, et la faim qui tape de plus en plus dans la tête. Et puis un jour, ils ont une idée terrible pour nous, mais sans doute pas pour eux, se manger. Comment vient cette idée de manger un humain pour survivre ?
Alors, premièrement, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, c'est très bien décrit dans le livre. À un moment donné, il y a eu un basculement. C'est-à-dire que quand on a tout mangé, quand on s'est restreint, quand on est affaibli, qu'on ne pense plus, qu'on a froid, qu'on a beau se couvrir, on n'arrive pas à se réchauffer, et qu'on a vraiment la faim qui tenaille. On voit d'ailleurs, c'est assez drôle, il y a l'anecdote de sa cacahuète que Parado le premier jour va sucer, le deuxième jour il va le séparer en deux, il va en mettre une partie dans sa poche, et le troisième jour il va manger l'autre partie de la cacahuète. Après ce stade-là, effectivement, il va entrevoir une blessure chez un de ses camarades survivants.
Ah oui, chez un survivant.
Ouais, voilà. Avec du sang. Et du sang qui sent, justement. Du sang qui sent.
L'odeur du sang.
L'odeur du sang. Va éveiller chez lui la faim qu'il tenaille depuis plusieurs jours. Et à partir de ce moment-là, étant donné, je répète le tableau, hein, ils ont déshabillé et ils ont mis les morts les uns à côté des autres dans la neige. Donc tous ces corps morts sont autant de possibilités de s'alimenter.
Donc il y a une barrière morale qui disparaît à ce moment-là.
Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ils n'ont pas le choix. Ils vont commencer, premièrement, à... En gros, si on peut parler vulgairement, se tailler des escalopes dans les parties charnues, dans les fesses, dans les jambes, dans les cuisses, etc.
Ils vont manger froid,
et
comme
ils
ça,
manger, bah oui, évidemment, ils vont manger froid, mais ça va calmer leur faim. Ça va calmer leur faim et ça va leur permettre de se maintenir dans un état de veille pour poursuivre, et ce qu'on va voir par la suite, justement... La survie
d'ailleurs. Survivre, c'est le nom du livre, Éric Millet, que vous publiez aux éditions Omnibus. Ils mangent pour rester en vie, car ils ont aussi un objectif, c'est quitter cette montagne, sortir de cette montagne. Qu'est-ce qu'ils imaginent ?
Alors là, pour l'instant, ils sont piégés. Il faut savoir qu'ils sont piégés. Ils arrivent à remettre en route une partie, un poste de radio où ils vont apprendre que les recherches ont été abandonnées. Parce que,
combien de jours après le crash ?
Alors, je crois que c'est trois semaines après le crash. Ils apprennent que les recherches ont été abandonnées.
Les autorités uruguayennes disent qu'il n'y aura plus de survivants.
On n'y va plus, quoi. Ouais. C'est pas possible. Personne n'a pu survivre. Et à partir de ce moment-là, assez curieusement, ça va être assez libérateur pour certains d'entre eux, dont Nando Parado et Roberto Canessa.
En fait, ce sont leurs témoignages que vous publiez.
Absolument.
Dans ce livre,
c'est pas tant les témoignages de cannibalisme que l'engagement de ces deux hommes qui, à un moment donné, voyant la situation morte, vont se dire « c'est pas possible, il faut qu'on y aille ». Alors, ils vont commencer par monter une expédition vers l'Est, c'est-à-dire retourner en gros d'où ils viennent, parce que vers l'ouest, ça leur paraît complètement infranchissable. Parce que les parois s'élèvent à plus de 1000 mètres d'altitude, ils n'ont aucun équipement. Ils sont arrivés en tongs, ce sont des rugbymen, ce ne sont pas des alpinistes. Et ils vont essayer de se faire un passage plein ouest.
Ils vont réussir, ils vont marcher 110 km. Et à un moment, ils vont tomber quoi ? Sur un homme, c'est ça ? Dans la vallée ?
Alors, ils vont commencer par escalader ce col à plus de 5200 mètres d'altitude. Okay ? Et là, ils vont descendre dans la vallée.
C'est un exploit déjà. Quelqu'un.
Et là, c'est la libération. Ils ont réussi à libérer tout le monde.
Et ils vont pouvoir emmener les secouristes pour sauver. Ils savent où se trouvent leurs compagnons dans le cirque, comme ça, dans la cordillère des Andes. Ils vont pouvoir tous les sauver ?
Ils vont refaire le circuit à l'inverse avec l'hélicoptère. Ils vont pouvoir sauver. Je crois qu'au total, ils sont 19 à avoir survécu à cette aventure.
Une autre aventure, une autre incroyable aventure à venir dans la curiosité sur RTL. On va se projeter jusqu'au 18e siècle. Restez avec nous.
Dans un instant, retour de la curiosité sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Nous avons complètement perdu espoir le 10e jour, quand nous avons entendu sur le petit transistor dont nous disposions que les recherches avaient été abandonnées. Auparavant, nous gardions tous une lueur d'espoir. Je crois que parfois l'esprit humain est plus fort que la réalité. On se demandait, qu'est-ce qu'on va faire ? On se disait, au moins on peut respirer, et si on respire, c'est qu'on est vivant.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On nourrit votre curiosité du lundi au jeudi de 20h à 22h sur RTL. On vous raconte des destins extraordinaires comme ceux de ces femmes et de ces hommes qui ont survécu aux pires accidents de la vie. C'est sans doute ce qu'ils se sont dit. Je vais survivre. C'est ce qu'ils font et c'est le récit que nous fait notre invité, Éric Millet. Vous avez réuni ces témoignages, souvent écrits par des survivantes, dans votre livre « Survivre » aux éditions Omnibus. Et puis, il y a une histoire que vous avez vraiment envie de nous raconter. Alors là, on va loin dans le temps. Elle se déroule au XVIIIe siècle. Qui est Pierre Viau et quelle aventure incroyable lui arrive-t-il ?
Alors, XVIIIe siècle, Pierre Viau, c'est un Azérien, comme moi. C'est pour ça que j'ai aussi quelques intérêts à le présenter. Et Pierre Viau, c'est quelqu'un qui a appareillé de Nantes vers Saint-Domingue, qui arrivait à Saint-Domingue, s'est trouvé un petit peu malade et a affrété un brigantin avec un commerçant et devait partir livrer en Louisiane un certain nombre de denrées, du rhum ou quelque chose comme ça. Malheureusement, tempête, son bateau se brise sur un récif au large de la Floride.
Sur l'île des Chiens, c'est
voilà,
ça ?
Dog Island, en fait. Ouais. Hein, l'île des Chiens. Mmh. Et puis, à partir de ce moment-là, la survie va s'organiser. Mais ce qui est quand même hallucinant dans son récit, on va le voir plus tard, c'est qu'on parlait tout à l'heure de cannibalisme, et en fait, c'est de l'anthropophagie.
Plus c'est quoi la différence ? Oui.
Ben, c'est-à-dire que cannibalisme, ça a une connotation un peu coloniale, hein, c'est-à-dire un peu condescendante. Le cannibalisme, c'est un mot qui a trait à une culture, hein, la culture de manger de la chair humaine. L'anthropophagie, anthropos, l'homme...
Qui mange
des hommes, quoi. On est dans une logique qui n'est pas une logique culturelle, on est sur une logique d'obligation, dans ce cas-là.
Et alors, Pierre Viau...
Alors, Pierre Viau, lui, il va... son bateau se brise, une partie de l'équipage va tenter de rejoindre la côte. Il la voit pratiquement couler devant ses yeux. Ouais. Il va affréter un petit canoë avec des Indiens qui vont l'emmener. Alors, ils sont plus que quatre. Il y a Madame La Couture, qui est la... Faut remettre ça
dans le contexte
des aventurières en crinoline. Hein. il va falloir... Il y avait Madame La Couture, qui est la femme du capitaine, son fils... Ce que Pierre Viau appelait son nègre, son esclave en fait, et Pierre Viau lui-même.
Donc ils sont quatre.
Tous les quatre. Ils se retrouvent tous les quatre. Voilà.
Sur quoi ? Sur un petit canoë ?
Alors ils se retrouvent sur les quatre sur un petit canoë. Ouais. Ils arrivent sur une île. Le fils est vraiment très mal en point. D'ailleurs, un espèce de subterfuge va faire croire à Madame La Couture que son fils est mort. Elle va même pas voir. Enfin, elle est dans un état de choc tel, Madame La Couture, qu'elle va laisser son fils pour mort sur l'île en question. On verra par la suite qu'il va la récupérer parce qu'il lui avait quand même laissé des vivres de l'eau. En fait, il n'était pas mort du tout.
Oui, il est assez diabolique, ce Pierre Viaud.
Bah, je ne sais pas trop. Enfin, il avait vraiment envie de s'en sortir, lui. On va le voir, on va voir
vous,
pourquoi.
Vous défendez le nazérien, vraiment. Hein.
Peut-être. Enfin, quoique, ce qu'il ait fait, en fait, je ne le défends pas vraiment, puisqu'en fait. Et là, on est dans le 18e siècle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le 18e siècle ? Le 18e siècle, nos rapports aux grands espaces ne sont pas du tout les mêmes que maintenant. On est le 18e siècle, on allait mettre des croix en haut de toutes les montagnes, les villages n'étaient pas construits au bord de la mer, mais bien en retrait. Enfin, tous les grands espaces qui fascinent les aventuriers d'aujourd'hui étaient relégués à des espaces maudits. C'était des espaces impénétrables, où il fallait avoir... On dit toujours qu'il y a les vivants, les morts et les marins, mais on est complètement dans cette logique-là.
On doit avancer sur cette histoire. Quels obstacles va rencontrer Pierre Viaud et Madame la Couture ?
Alors, ils vont déjà...
Et son esclave ?
Alors, les moustiques. Ça paraît bête, mais la première chose, c'est les moustiques. L'absence de nourriture aussi, pour Pierre Viaud et Madame la Couture. L'absence d'eau. L'eau était saumâtre, hein, parce qu'on est là, on est dans les Everglades, pratiquement. On est dans des endroits où l'eau est saumâtre. Et puis, à un moment donné, va se passer l'imaginable. Et c'est pour ça que ce récit n'est pas arrivé dans l'histoire. En fait, à un moment donné, il a acheté un esclave, et bien il va le manger.
Il considère que c'est sa propriété.
Il considère que c'est sa propriété et il va le découper en morceaux, le manger, le garder pour lui.
Donc il va l'assassiner déjà au début. Alors, parce qu'il
il
est
va
vivant.
L'assassiner. Alors c'est assez. Ce récit est assez intéressant parce que dans la manière dont il est écrit, puisque là il fait profusion de désert. Bon, la notion de désert à l'époque c'était la notion de paysage inhabité. Hein, on n'a pas du tout les mêmes notions. On parlait de bêtes féroces, mais là on est presque dans la mythologie qui date de l'Antiquité, qui a été repris par les encyclopédistes du Moyen Âge. C'est le désert, les bêtes féroces, etc. Et en fait, Madame la Couture et lui vont se mettre à découper l'esclave en petits morceaux, tout simplement pour leur permettre de subsister. Et c'est ça qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'en fait, c'est l'incarnation même du mythe de Robinson Crusoe. Parce que le mythe de Robinson Crusoe est à la source de tous les aventuriers d'aujourd'hui.
Mais ce récit, on a mis du temps à y croire et il a mis du temps à émerger dans l'histoire, c'est ce que vous nous racontez, Éric Millet.
Oui, à cause de l'anthropophagie, justement. On ne pouvait pas, à l'époque, au XVIIIe siècle, on ne pouvait pas afficher clairement un récit qui...
C'est aussi insupportable à l'époque qu'aujourd'hui,
absolument,
de toute façon.
Mais à l'époque, on avait aussi la morale de la religion qui interdisait tout type de relations de ce type d'histoire.
Parce que c'est lui-même, pardon Sidonie, qui l'a raconté, son histoire ?
C'est lui qui l'a raconté. Alors pendant longtemps, on a. Alors, c'est pas lui qui l'a écrit, parce que d'ailleurs, un marin. Enfin, c'est pas lui vraiment qui l'a écrit. Il a eu un nègre pour faire un mot.
Un ghost writer.
Voilà,
quelqu'un a écrit l'histoire pour lui.
Ouais. Absolument, parce que justement, c'était pas possible de l'écrire à l'époque.
La réalité qui dépasse la fiction. Tiens, une autre histoire dans le même genre, celle de ce garçon coincé dans une faille du Grand Canyon qui va devoir se couper un bras pour sauver sa peau.
Ça avait donné un film
sur RTL, 127 heures. On revient tout de suite.
Avec RTL, cultivez votre curiosité jusqu'à 22h.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Survivre, c'est un mot comme ça, tout simple, qu'on peut prononcer souvent. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de ces femmes, de ces hommes qui un jour ont été confrontés à ce choix ? Comment faire pour survivre ? Jusqu'où repousser ses limites pour rester en vie ? C'est ce que nous raconte notre invité Éric Millet. On a été, grâce à vous, dans la Cordillère des Andes avec l'histoire de cette équipe de rugby qui a dû... manger les corps des morts pour s'en sortir. Ensuite, l'histoire au XVIIIe siècle de Pierre Viaud. Alors là, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je ne sais plus la date exactement. On est dans le Grand Canyon avec un Américain, il s'appelle Aaron Ralston. Moi, je me souviens du film 127 heures. Vous allez nous raconter l'histoire vraie. Qui est-il, cet Aaron Ralston, et que décide-t-il de faire ?
Alors, c'est complètement hallucinant, cette histoire d'Aaron Ralston. Ça s'est passé en 2003.
2003, c'est ça.
Aaron Ralston, c'est un alpiniste aventurier américain qui a déjà à son actif un certain nombre, je crois que c'est les 60 sommets du Colorado. Il doit en avoir franchi, grimpé une quarantaine. Et il va partir en solo un week-end pour essayer de se faire plaisir dans les canyons de l'Utah, tout simplement.
C'est une balade.
Pour lui, c'est une promenade de santé, pratiquement.
Il maîtrise, quoi.
Il maîtrise complètement, c'est son truc, être tout seul, sa musique, des fils sur les oreilles, partir de bon matin à la première heure, regarder le soleil se lever, et partir comme ça. Alors, il va déjà commettre deux erreurs, quand même.
Alors, j'allais vous dire, est-ce qu'il prévient quelqu'un ?
Il prévient personne. Il prévient personne, ça c'est sa première erreur. La deuxième erreur qu'il va faire, c'est que quand il va s'acheter un peu de nourriture avant d'arriver sur site, il va payer en liquide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace d'un échange commercial, donc on ne sait pas où il est exactement, il n'a prévenu personne, il arrive sur un parking, il prend son vélo et là il va partir dans une direction. Il faut savoir, le Grand Canyon, c'est un labyrinthe complet, enfin la partie de l'Utah dans laquelle il va se perdre, c'est un labyrinthe complet, c'est impossible de s'y retrouver.
À partir de quel moment son destin va basculer ? Aaron Ralston va tomber dans une crevasse ?
Alors, il escalade, c'est-à-dire qu'il est dans les canyons très profonds où on monte ce qu'on appelle en opposition, c'est-à-dire en prenant à pied avec le dos et sur les jambes, c'est-à-dire on se tient en équilibre au milieu de la paroi qui est généralement très étroite, qui
doit les bras d'un côté, le bras, dos,
et on mange en position, c'est-à-dire pousse sur les bras, on pousse sur les pieds et sur les bras et sur son dos pour pouvoir se maintenir. Et à un moment donné, il va dévisser parce qu'il va prendre appui sur un gros rocher, il va dévisser et il tombe jusqu'au fond du canyon et là le rocher va lui tomber dessus et au dernier moment le rocher va se trouver bloqué dans un geste de complètement stupide, il va essayer de se protéger, il tend la main et à ce moment-là le rocher qui fait à peu près une demi-tonne va lui coincer l'avant-bras.
Donc il reste coincé sous ce rocher. On est au début de ces 127 heures de survie que l'on raconte. Il est seul au monde, il a prévenu personne, il a un peu de nourriture quand même, il a de quoi tenir pendant combien de temps ?
Alors en tout et pour tout, il doit avoir deux burritos et 3 litres d'eau.
Ah.
Point à la ligne.
3 litres d'eau, c'est déjà pas mal.
C'est-à-dire qu'en gros,
on va voir que ça suffira pas.
Il sait qu'il peut tenir 3 jours. Sauf qu'on est sur un long week-end, qu'il a prévenu personne.
Pardon, je vous interromps. Mais...
Ce qu'il pense tout de suite, c'est de toute façon, je ne pourrai pas partir sans me couper le bras. Mais il va refuser cette idée-là.
Ah, c'est dingue.
Et pourtant, on va voir c'est ce qu'il va faire. Mais il sait qu'il est perdu.
Dès les premiers instants de sa captivité, Aaron Ralston va se filmer, écouter avec son caméscope, parce qu'il avait un caméscope dans son sac à dos, écouter ce message qu'il enregistre pour ses parents. On voit Aaron Ralston face caméra, il porte une casquette et il est blanc comme un linge.
Mon nom est Aaron Ralston. Mes parents, Emma et Larry Ralston, vivent à Englewood, Colorado. À qui trouvera cette vidéo, s'il vous plaît, essayez de leur transmettre. Transmettez-leur, je vous en serai reconnaissant.
À quel moment Aaron Ralston va décider qu'il faut qu'il se coupe le bras ? Il l'a déjà décidé, mais à quel moment il va passer le cap ? Qu'est-ce qu'il imagine ? Comment il se projette dans ce geste ?
Alors, d'abord, il refuse totalement. Il va essayer tous les moyens. Il va essayer de bouger le bloc. Il va essayer de le découper. Il va essayer de le soulever en mouflant, en faisant des mouflages avec ses cordes. Il faut savoir quand même qu'il n'est pas assis. Il est pratiquement debout. Il touche à peine le fond. Il est pratiquement suspendu à ce rocher qui lui bloque la main. Il est en extension complète. Il n'a pas d'eau. Au bout d'un certain nombre de temps, de quelques jours, il n'a plus d'aucune nourriture. Il va commencer à boire son urine. Et là, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Il est complètement en extension sur son bras et il va commencer à bouger son bras. Et là, il commence à sentir sa main qui est en train de pourrir. Et c'est parce qu'il a senti sa main qui est en train de pourrir.
Il sent l'odeur de son corps qui pourrit.
Voilà, il sent l'odeur de son corps qui pourrit. Et à un moment donné, il va commencer, parce que là, ce qu'il a refusé au premier temps de son emprisonnement, il va commencer à se dire, c'est peut-être possible. Et là, il prend sa pince Leatherman, sa pince multi-usage, là, un genre couteau suisse. Et il va commencer à tailler sa peau.
Donc
regardez ce qu'il peut faire.
Avec une petite lame, quoi.
C'est pas un grand couteau. Un outil de boucher, c'est une lame émoussée. Il va commencer à se découper la peau.
Mais il y a de la douleur ? Ou alors
Il a une douleur extrême. Ouais. Il a une douleur extrême. Et progressivement, en fait, son premier problème, c'est les os. Oui. C'est comment
les briser
pour scier les os. Il ne pense pas à les casser dans un premier temps. Et en fait, il va les casser. Et c'est justement parce qu'il va sentir que sa main est en train de pourrir qu'il va essayer de se gesticuler dans une espèce de force incroyable, mais qui dépasse complètement l'entendement. C'est là qu'on parlait des 21 grammes tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est complètement en dehors de son corps et en dehors de sa propre raison. Il a presque une raison animale, on va dire, à ce moment-là, comme un animal qui va se libérer de son piège. Il va faire en sorte de casser ses os. Et il décrit très bien, c'est admirablement bien écrit dans l'extrait que j'ai choisi.
Et que vous reproduisez dans Survivre, que vous publiez aux éditions Omnibus.
Il va casser ses os, et à partir de ce moment-là...
Mais comment il fait, pardon, je vous interromps, mais il a le bras coincé
jusqu'avant le coude. C'est-à-dire qu'en fait, il est coincé fort, à peu près 15 cm au-dessus du poignet. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il va gesticuler de telle façon qu'il va arriver à briser les deux os.
Oh, ça donne des frissons.
Et à partir de ce moment-là, il va commencer une espèce de chirurgie dans une espèce de transe de lui-même absolument incroyable. Il va commencer par scier tout ce qu'il peut, mais avant, il va prendre soin de se fabriquer un garrot, puisque de toute façon, s'il commence à attaquer les artères, là, c'est fini. Donc, il va se faire un garrot très fort. Alors là aussi, je passe les détails qui sont très bien décrits dans le livre, la manière dont, avec son tuyau de camelback, il fait un garrot, et après, il va commencer à attaquer les chairs, les muscles, mais laisser un petit peu les nerfs de côté.
Il va trier.
Laisser les artères, il va commencer à se sectionner les veines, il va laisser les artères, il commence à trier, etc. Et on va voir que là, dans l'énervement total, et on va voir, il le dit lui-même, c'est un état second qui l'anime à ce moment-là, de libération. Ce qui lui pose le plus de problèmes, c'est le tendon. Tendon qui est gros comme un petit doigt, en quelque sorte, et qu'il n'arrive pas à couper avec sa lame émoussée. Et là, il va prendre la pince. Et là, il tape avec la pince et il tord dans tous les sens pour se tordre le tendon. Et instant sublime, très fort du livre, c'est au moment où il coupe la dernière peau pour se libérer. Et là, c'est un moment. Et là, après, arrive un autre stade de la survie pour lui, puisque en fait,
il faut ressortir de ce trou. Oui.
Il est libéré de son emprise, mais après, il va falloir qu'il désescalade, qu'il prenne sa bagnole, etc., etc.
Et la suite de l'histoire est à lire dans votre livre Survivre, témoignage, un très beau livre. C'est aux éditions Omnibus. Merci beaucoup, Éric Millet, pour ces récits. À bientôt, micro de la curiosité.
Merci, à bientôt.
Vous écoutez RTL.